Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacé si tôt pour venir participer avec nous à cet hommage à Fatema Mernissi. Donc merci à celles qui m'ont aidé à l'organiser, à toutes les amies qui viennent du Maroc, de Tunisie, de Suède. Voilà. Alors, tout ça pour dire que, en fait, l'histoire de cette journée, ben, ça a commencé en 2016, pour le premier anniversaire de la disparition de Fatema Mernissi. Un collectif de féministes maghrébines ont décidé d'organiser des journées qu'on a appelées JFM, Journée féministe maghrébine, et Journée Fatema Mernissi, voilà. Avec l'idée que, bon, au départ, c'est venu après l'idée qu'on allait faire quelque chose d'itinérant et qu'on allait continuer cette expérience qui avait bien marché. Donc la première fois, ça a été à Tunis, au club Tahaddad, qui est un haut lieu du féminisme tunisien et maghrébin, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés dans les années 80. On a une histoire, on pourra en parler, hein, du féminisme maghrébin qui remonte à cette période-là, entre l'Algérie et la Tunisie, puis par la suite avec les Marocaines. Et donc, on a fait cette journée au club Tahaddad, où il y a eu la participation de personnes qui sont présentes aujourd'hui et d'autres du Maroc notamment, qui ne sont pas toutes là, et d'Allemagne.
Thomas,
qui a connu Fatema. C'était en fait des gens qui avaient connu Fatema Mernissi et qui voulaient témoigner de ça. Et à l'issue de ces journées, on a publié un ouvrage qu'on va vous donner, qui sera en vente ici, qui a été publié à Tunis. Voilà. Et puis l'idée, donc, c'était. Et il y avait Karima Ramdani qui n'a pas pu venir parce qu'elle travaille, mais qui sera là tout à l'heure, qui a fait une présentation sur, à partir de sa thèse sur l'idée d'inverser le rapport centre-périphérie, c'est-à-dire que le centre est au Maghreb, dans le monde, en tout cas dans le monde, dans le sud, et ici c'est la périphérie. Donc aujourd'hui c'est la journée de la périphérie, voilà, on fait la journée ici, mais notre centre il est là-bas. Et puis bon, en fait, l'idée d'inverser la relation, elle est subversive, mais l'idée plus juste, c'est d'une interaction. Hein, pas de centre, pas de périphérie, mais d'une interaction entre les deux. Donc là, ici, l'idée, c'était, comme c'est dans un cadre académique, le CNRS et tout, c'était d'inviter quand même des gens qui ont fait des recherches approfondies sur l'œuvre de Fatema Mernissi. Alors au début, l'ambition a été plus grande, mais on aurait voulu inviter aussi des personnes du monde anglo-saxon qui ont travaillé sur l'œuvre de Fatema Mernissi, comme Julia Clancy-Smith, qui est historienne à l'Université de Californie à Los Angeles, qui est spécialiste d'études de genre postcoloniale, Aisha Hidayatullah, qui est en Californie, qui est spécialiste du féminisme islamique, auteur de Feminist Edges of the Quran, Amina Wadoud, qui a écrit Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam. Bref, on n'a pas pu faire tout ça, et donc on reste entre francophones, et on espère que les prochaines fois, on pourra vraiment, peut-être qu'on obtiendra un financement, parce qu'il va y avoir le cinquantenaire de l'Université Paris 8, on va faire une demande peut-être qu'on pourra le faire dans un autre cadre, voilà. Alors, JFM. La deuxième JFM, c'était toujours à Tunis, et c'était l'année d'après. On essaye toujours de faire coïncider plus ou moins avec l'anniversaire de la disparition de Fatema Mernissi. Donc c'était le 30 octobre aussi.
Novembre.
Et c'était à la Fondation Rosa Luxembourg, qui d'ailleurs nous avait financé la première journée, ça il faut quand même le préciser. Et c'était autour du livre qu'on a publié. Donc on a fait aussi une journée, une deuxième journée. Et voilà, là c'est la troisième journée. Je laisse la parole à Rachida qui m'a aidé à organiser, qui m'a aidé. On a organisé ensemble cette journée. Donc je laisse la parole aussi à Rachida et Naïfer.
Bon, Fatiha, tu as tout dit. Non, juste pour dire vraiment que je suis très très contente. Que maintenant nous sommes à la troisième édition des journées féministes, parce Parce que ça, c'était pas évident. Et ceci, c'est grâce à Fatiha. Parce que vraiment, pour les deuxièmes journées, on a été très modestes. Et il faut dire que le collectif n'a pas de secrétariat, n'a pas de, d'infrastructure. C'est un collectif informel, mais un collectif né finalement de notre amitié pour Fatima Mernissi et aussi de nos amitiés communes en tant que femmes maghrébines. Et donc, les deuxièmes journées ont été très modestes. Elles étaient finalement éclatées sur deux lieux. Le premier lieu, c'était Rosa Luxembourg avec une table ronde sur l'actualité de la pensée de Fatima Mernissi pour les jeunes. Et la deuxième, elle était à la Bibliothèque nationale autour finalement de... c'était autour de la circulation de la pensée féministe en général. Et c'était notamment en rapport avec la traduction et l'œuvre très importante de Fatma Zahra Zriwel qui finalement a rendu possible la lecture de Fatima Mernissi dans une autre langue que celle dans laquelle elle écrit. Mais bien sûr, après, on sait que Fatima Mernissi a été traduite dans 30 langues. Donc voilà, ça c'était la deuxième journée. Nous en sommes à la troisième journée et c'est très important que ça soit Paris. Bien sûr, Fatiha. Mais aussi Paris, parce que l'idée qui a commencé à germer à Tunis dans une discussion avec Amel va être concrétisée dans un petit café à Paris avec Fatiha. Donc voilà. Donc, et c'est la navette Tunis-Paris, centre-périphérie, qui a fait que finalement les JFM ont vu le jour. Et bien sûr, je suis très contente qu'on soit là ensemble, tout d'abord à rendre hommage à celle qui, vraiment, je pense, a beaucoup donné au féminisme maghrébin, au-delà de toutes les amitiés, mais aussi qu'on soit là pour essayer un peu de voir quelle voix féministe au pluriel s'offre à nous et ce que nous pouvons faire dans nos différents contextes marqués par une récession de la démocratie. Donc voilà, encore une fois, merci à vous d'être là et merci à Fatiha et merci aussi à celles qui sont venues de loin.
Voilà, donc on va passer à la première session qui est dirigée par...
On va rendre place à Fouzia.
Qui c'est qui dirige la première session déjà? Bien, Fouzia Benio.
Je suis enchantée.
Non. Bonjour chers amis, bonjour mesdames. Je voudrais d'abord remercier Madame Fatiha, notre amie Tahit, pour ce travail, ce travail autour de l'œuvre et de la mémoire de Fatima El-Mernissi. Je voudrais aussi remercier en mon nom le collectif maghrébin. Moi-même, je suis membre de ce collectif. Je me présente brièvement. Je suis Fouzia Benio, journaliste franco-marocaine basée à Paris, mais je travaille régulièrement en direction du Maroc. Une ancienne étudiante de Fatima El-Mernissi, donc en 81-82, c'était sa dernière année où elle enseignait à l'université. Donc j'étais à l'époque au département de sociologie. Oui. Donc Fatima El-Mernissi était mon professeur en matière de méthodologie en recherche sociale. Donc c'était la dernière année où elle a enseigné à l'université Mohamed V à Rabat, avant de rejoindre pour sa carrière le centre d'études universitaires de recherche scientifique. C'était aussi une proche, une amie. D'abord parce qu'elle nous a aidés énormément en tant que féministe marocaine, et surtout qu'en 1983 on avait lancé le premier journal arabophone féministe militant. Donc elle nous a accompagnés longuement dans toute notre démarche, notre réflexion et notre travail de terrain. Bien avant cela, la rédactrice en chef de ce journal, qui est aussi membre du collectif maghrébin aujourd'hui, et Latifa Jbabdi, et Et elle a déjà commencé à travailler avec Fatima El Mennissi en 79-80, quand il a quitté la prison en tant qu'ancienne détenue politique. Et donc, elle aussi sociologue et militante politique, militante des droits de l'homme, et grande militante féministe. Donc, elle est aussi un des visages incontournables du féminisme au Maghreb. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de participer à cette séance. Je vais animer cette première session aux tables rondes avec la participation de Mme Meryem Yafout, Raja Rohoni et Meryem Rodari. Donc, une petite présentation de ces trois universitaires chercheurs dans le domaine du féminisme, islam et modernité. Donc, Meryem Yafout est professeur et chercheur en sciences sociales. Il est l'auteur de plusieurs articles sur le féminisme islamique au Maroc, la situation des femmes dans les partis politiques marocains, des mouvements islamistes au Maroc. Elle a eu un doctorat en sciences politiques à la faculté de droit et sciences sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Et sa thèse a porté sur la situation des femmes au sein des mouvements islamistes au Maroc, entre les éneurs féminins et la participation politique. Quant à Madame Raja Arhoni, elle est professeure à l'université Shoaib Dukali d'El Jadida. Elle a étudié d'abord la littérature anglaise et puis les études culturelles arabes. Elle a obtenu son doctorat en 2005. Du programme Culture and Development Studies à l'université Mohamed V. Chercheur universitaire et auteur du bouquin Les laïcs et des critiques féministes et islamiques dans l'œuvre de Fatima El Mennissi. Pour notre troisième contributrice, Meryem Rodari, elle est anthropologue, formatrice et consultante sur le genre, la migration et l'interculturalité. Docteur en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, elle est associée au CRESPA GTM et travaille sur les migrations marocaines et sénégalaises en France. Par ailleurs, elle est formatrice, consultante et chargée de projet pour des structures diverses, associative, groupement de recherche, intervient auprès de divers publics, voilà, notamment les travailleurs sociaux en milieu migrant. Voilà, en résumé, il y a aussi notre discutante, donc Aurélie Damam, qui interviendra plus tard pour synthétiser les débats et pour rendre compte de cette première séance de travail. Voilà. Donc, Madame Aurélie Demem elle a des compétences diverses. En matière de consulting, de réalisation d'études, de rédactionnel, en matière de rédaction et de communication, et puis elle est aussi coordinatrice de divers projets. Voilà, j'y arrive. Ça, je parle des compétences, c'est-à-dire pratiques. Doctorante en géographie, aménagement à l'IRD. Vous avez travaillé sur les femmes dans les projets du développement au Maroc. Vous vous intéressez à beaucoup de domaines et vous êtes aussi diplômée de l'UP de Grenoble, c'est ça? Voilà. Je donne la parole à la première intervenante, Meryem Yafout.
Merci. Alors, bonjour à tous et à tous. Content d'être parmi vous. Et je remercie les membres de l'équipe CRESPA pour l'organisation de cette journée et de m'avoir invité à y participer, particulièrement Madame Fatiha Talaït et Madame Rachida. Je vous en remercie. pas partie.
J'ai fait. C'est co-organisé.
Les journées, d'accord. D'accord. Alors, je commencerai mon intervention par une anecdote. C'est que, étant adolescente, j'ai reçu une image très diabolisée de Madame Fatema al-Mernissi, comme quoi il s'agit d'une femme qui insulte l'islam, une femme qui veut détourner les femmes musulmanes de leur religion. C'est l'image que j'avais de cette dame. Je ne sais pas d'où je l'ai reçue, peut-être de l'école, peut-être de la presse. Et je n'ai jamais cherché à la vérifier parce qu'à l'époque, la sociologie ou les sciences sociales ne me disaient pas grand-chose. Et c'est lors de ma thèse de doctorat, quand j'ai commencé à travailler sur les femmes islamistes au Maroc, et à un certain moment, j'ai dû comparer leurs pensées avec celles des féministes islamiques, que j'ai commencé à découvrir les œuvres de Madame Fatema al-Mernissi, et j'ai dû travailler notamment sur ces deux livres, Le harem politique et Sultane oubliée. Et là, je commence à découvrir que c'était peut-être la première femme au Maroc que l'on peut qualifier de féministe islamique. Pourquoi ? Parce que dans ces deux ouvrages que j'ai étudiés, ces deux ouvrages montrent qu'elle défend la thèse selon laquelle le prophète a accordé une place capitale à la femme dans la vie publique et qu'en revanche, il y a eu une manipulation des textes sacrés par le pouvoir politique. Elle défend donc la thèse selon laquelle la discrimination des femmes ne provient pas de l'islam, mais plutôt de l'interprétation erronée des textes sacrés. Elle dit dans son livre « Le harem politique », « À l'époque du prophète, et dans les ruelles de Médine, le débat sur l'égalité des sexes faisait rage, et les hommes étaient obligés d'en discuter, sinon de l'admettre, puisque Dieu et son prophète l'exigeaient. » Elle dénonce ce qu'elle appelle une profonde amnésie dans la mémoire des musulmans contemporains qui vivent l'égalité des sexes comme étant un phénomène étranger. Alors que pour elle, c'est quelque chose intrinsèque à nos sociétés normalement, qui devait l'être. Au niveau de la méthode, elle revient au récit de vie du prophète. Elle adopte souvent une approche historique qui compare le statut des femmes dans différentes époques de l'histoire de l'islam, pour montrer que la marginalisation des femmes en islam n'est qu'une construction jurisprudentielle. Sa méthode repose aussi sur la remise en question de certains hadiths, les paroles du prophète, qu'elle juge misogynes et contredisant l'esprit libérateur de l'islam. Elle remet en question certains hadiths considérés authentiques et cités dans Al-Bukhari, dans le recueil de hadiths Al-Bukhari. Et c'est là un point qui est essentiel, qui la différencie de beaucoup de féministes islamiques. Ces dernières se contentent de remettre les hadiths dans leur contexte socio-culturel et les comparer à ce qu'on appelle l'intention du législateur ou les finalités de l'islam pour montrer que tel hadith s'adressait à une situation précise et qu'il ne prononçait pas ce qu'on peut prendre pour une règle générale et éternelle. Un deuxième trait de sa méthode qui la distingue aussi de la plupart des féministes islamiques, c'est que, alors que ces dernières critiquent la jurisprudence classique, une certaine interprétation des hadiths qui, selon elles, était élaborée d'un point de vue purement masculin, Mernissi, en plus de cela, recourt à la contestation de l'intégrité du narrateur du hadith, de certains narrateurs de hadith qu'elle présente comme étant machistes et dont la narration n'a pas été neutre, mais plutôt influencée par leur caractère machiste, mettant en doute leur honnêteté intellectuelle et leur crédibilité. Un exemple parmi d'autres est celui de son analyse du hadith qui mentionne qu'un peuple qui se fait conduire par une femme va à sa ruine. Afin de le déconstruire, elle remonte aux origines de l'auteur du hadith Abu Bakr, un notable de la ville de Basra, et un ancien esclave libéré par le prophète. qui s'est installé en Irak. Alors, selon le Mernissi, 25 ans après le décès du prophète, ce compagnon va se rappeler de ce hadith à l'occasion du conflit qui était entre le quatrième calife Ali ibn Abi Talib et Aïcha, l'épouse du prophète. Mernissi avance que Abu Bakr aurait procédé par opportunisme pour justifier le fait qu'il ne s'est pas rallié à Aïcha et par la même occasion pour gagner la sympathie du quatrième calife Ali. Sa méthode est qualifiée par certains chercheurs du féminisme islamique de méthode sélective anti-sunna. Elle recourt au tri des hadiths. Méthode qui, selon la chercheure égyptienne Hibara Oufaizet, admet le Coran comme livre sacré, mais procède au tri du hadith. Ce caractère sélectif est aussi mentionné par la sociologue turque Nilüfer Gol, qui souligne que Mernissi procède au tri des hadiths avant de se les réapproprier. Pour la remise en question de la règle jurisprudentielle qui provient de ce hadith, c'est-à-dire qui interdit aux femmes toute haute fonction politique, calife ou sultane, Mernissi adopte aussi une approche historique dans son livre « Sultane oublié ». Elle revient à l'histoire pour montrer que, contrairement à cette règle jurisprudentielle, l'histoire musulmane est pleine d'exemples de femmes qui avaient gouverné de manière directe ou de manière indirecte, mais qui ont été oubliées de l'histoire musulmane et, selon les termes de Fatima al-Mernissi, ont été historiquement assassinées. Donc, à l'instar de cette inversion de regard que j'ai eue de Fatima al-Mernissi, elle est passée dans ma perception d'une femme ennemie de l'islam à une féministe islamique. J'ai noté que des regards contrastés vont accompagner Fatima al-Mernissi durant toute sa marche intellectuelle. Elle est considérée par les uns comme étant une féministe islamique, mais en même temps, elle est critiquée par certaines féministes islamiques. Elle est remise en cause par beaucoup de personnes adoptant un référentiel religieux, mais en même temps, elle est respectée par d'autres. À l'occasion de mes recherches de doctorat, plus précisément entre 2008 et 2012, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes islamistes. Et je peux citer par exemple Bassima Haqqawi, l'actuelle ministre de la Femme, qui, durant l'entretien, a cité à plusieurs reprises Fatima al-Mernissi et ses ouvrages, bien sûr, dans un contexte positif. Chose qui, pendant les années 80 et 90, était inconcevable qu'une femme islamiste parle de manière positive de Fatima al-Mernissi. Je peux citer aussi Nadia Yassine, qui a exprimé beaucoup d'estime pour Fatima al-Mernissi et qui affirme avoir eu beaucoup d'échanges d'idées avec elle. Après le décès de Fatima al-Mernissi, j'ai remarqué que ces regards contrastés n'existent pas seulement chez des personnes adoptant un référentiel religieux, mais aussi chez des séculiers. Alors que la majorité des personnes séculières la considèrent comme une icône du féminisme séculier laïque, certains intellectuels mettent des doutes sur son penchant féministe. En faisant une lecture de son roman « Rêve de femme », publié en 1994, la sociologue marocaine Nzheg Sous décrit un art chez Fatima al-Mernissi. C'est, je cite Nzheg Sous, « cet art d'adoucir, voire d'enjoliver des injustices à l'encontre des femmes, qui peut interpeller en ce sens qu'il peut être jugé incompatible avec le féminisme et la philosophie des droits humains. On conçoit dès lors que l'on puisse lire ce roman dans un basculement entre l'amusement, voire l'émerveillement et l'agacement. » C'est les paroles de Nzheg Sous. D'autres lui reprochent qu'elle fait beaucoup référence au référentiel religieux. J'ai même lu récemment un article d'un écrivain laïque qui parle de l'intégrisme de Fatima al-Mernissi. Donc, il la considère comme intégriste, d'abord parce qu'elle revient au passé lointain et à la tradition pour analyser des phénomènes contemporains. Il ajoute que cette approche présente chez beaucoup d'intellectuels arabes ou musulmans reflète un amalgame entre le rôle de la raison et le rôle de la religion. Selon lui, le livre Le Harem politique survalorise la vie du prophète et présente Aïcha, l'épouse du prophète, comme si elle était la libératrice des femmes de tous les temps. Et il s'appelle Ashraf Zral. Je pense qu'il est palestinien. Alors, la question que je me suis posée, c'est comment cette sociologue a provoqué chez les uns et les autres des regards aussi contrastés, alors que les uns considèrent qu'elle insulte la religion, d'autres considèrent qu'elle valorise le référentiel religieux, alors que les uns la considèrent comme une icône du féminisme laïque, d'autres parlent de son intégrisme, etc. Est-ce qu'il s'agit d'une contradiction dans la pensée de Fatima El-Mernissi ? Une explication que j'ai trouvée très raisonnable de ce phénomène, c'est celle que j'ai trouvée chez la sociologue Nzheg Sous, qui explique que la pensée de Fatima El-Mernissi n'était pas linéaire et qu'elle est passée par plusieurs étapes. Elle a connu un passage progressif d'une approche que l'on peut qualifier de féminisme laïque à une approche théologico-idéologique, selon les termes de Nzheg Sous, par un travail de relecture et de réinterprétation des textes religieux. Et que dans un troisième temps, Fatima El-Mernissi a favorisé des recherches-actions par une approche économique et politique de terrain, croisant les problématiques de genre et de classe sociale. Je sais que Mme Raja Rouni aussi a travaillé sur... Oui. Cette évolution dans la pensée de Fatima El-Mernissi. Donc, je parle sous votre contrôle. Alors, Gsous décrit l'évolution de la pensée de Mernissi en trois étapes. Une première étape qui date de 1973 à 1985, où elle la décrit comme étant plus audacieuse et plus radicale dans sa critique des textes religieux. Gsous parle du livre « La femme dans l'inconscient musulman » qui, selon elle, a été publié par Mernissi en 1982, mais sous un pseudonyme, Fatna Etzbah. À ma connaissance, Mernissi ne s'est jamais attribué ce livre, mais il est toujours attribué par des penseurs à Fatima El-Mernissi. Alors, selon Gsous, l'auteur juge certains versets coraniques comme étant discriminatoires vis-à-vis des femmes. Elle relève que s'agissant des actes de culte, la femme est mentionnée directement dans les discours coraniques qui s'adressent à elle, nommément « Hommes et femmes sont situés à égalité devant Dieu ». C'est-à-dire que dans une dimension spirituelle, hommes et femmes sont mentionnés à titre d'égalité. À l'inverse, s'agissant des lois religieuses qui régissent l'organisation et la gestion de la société musulmane, les femmes disparaissent du discours coranique. Gsous note cependant qu'il s'agit de la première édition de ce livre. Dans les éditions qui vont suivre, la critique de l'auteur vis-à-vis des versets coraniques va être plus atténuée et plus nuancée. D'ailleurs, l'édition de 2010 défend même des théories selon lesquelles l'islam est la religion de la raison, l'islam n'est pas contre l'amour, l'islam honore les femmes. Donc ça, c'est la première étape. Une deuxième étape de sa pensée, selon Gsous, commence à partir de 1985 avec la publication de l'essai « Sexe, idéologie et islam ». Cette étape initie un discours dirigé vers l'Occident pour critiquer et relativiser leur lecture de l'islam et en particulier la situation des femmes musulmanes. Elle s'adresse à l'Occident pour déconstruire l'image que ce dernier se fait de l'islam et des musulmans. L'aspect majeur de ce tournant que l'on peut déceler dans l'œuvre de Fatima El-Mernissi à partir de 1985 réside dans le fait qu'elle va centrer ses analyses et son approche des droits et de la situation des femmes à partir du référentiel religieux. Elle va argumenter la thèse qui affirme que la discrimination des femmes musulmanes n'est pas la conséquence de l'islam, mais de son interprétation. Elle a initié cette phase avec son livre « Le harem politique » qui d'ailleurs a été interdit au Maroc. Cette deuxième étape a été jugée par certaines féministes séculières comme un recul dans la pensée de Fatima El-Mernissi. Et cite Naïma Chikhaoui qui juge un recul dans la pensée de Fatima El-Mernissi. Après commence une troisième étape qui débute vers la fin des années 90 jusqu'à son décès en 2015, qui se caractérise. Donc, cette étape se caractérise par une diversification de ses thèmes et méthodes de recherche. Elle a initié des recherches actions de terrain auprès de groupes cibles, plus ou moins marginalisés. Donc, elle a travaillé sur les tisseuses, sur les femmes journalistes, sur les jeunes, sur l'islam digital, sur le vivre ensemble. J'ai eu personnellement l'honneur de travailler avec elle dans le cadre d'ateliers, de plusieurs ateliers du vivre ensemble qui ont été dirigés par elle-même et par le journaliste Drisk Sikes. Il importe aussi de mentionner que lors des dernières années de sa vie, elle refusait de s'exprimer sur les questions féminines. Quand elle est contactée par des journalistes ou par des chercheurs, elle dit « J'ai écrit tout ce qu'il faut sur les questions féminines, donc maintenant je passe à autre chose, à l'islam digital, au vivre ensemble. » Donc au final, je pense que Fatima El-Mernissi a laissé un héritage très riche où tout le monde peut finalement se retrouver. Les féministes islamiques peuvent s'y retrouver, les féministes laïques, les occidentaux, les locaux, tout le monde peut s'y retrouver. J'espère que les autres intervenantes seront d'accord avec cette conclusion. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Maryam Yafout pour votre intervention et ce regard croisé sur l'héritage de
Je remercie Madame Maryam Yafout pour son exposé. Exposer d'un regard croisé sur l'œuvre de Fatima El-Mernissi.